simplement, au CIM, on est fiers depuis quelques années d'inviter des post-doctorants à venir travailler avec nous. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir eu la chance de collaborer avec François Leborgne sur un projet, hein, qui sera un projet de post-doctorat. Et lorsqu'il est venu me rencontrer, il voulait surtout confirmer qu'au CIM, on avait un intérêt pour ce genre de sujet qui peut-être n'est pas nécessairement très très connu, les protocoles d'entente, les memorandums of understanding. Et en discutant ensemble, je me suis rendu compte qu'on avait quand même des intérêts communs, notamment moi j'ai travaillé beaucoup sur cette question-là, ce type d'entente-là au niveau de la concurrence, et donc ce sera intéressant à terme si le projet débouche, de pouvoir voir effectivement si on ne peut pas faire des parallèles avec d'autres domaines que ce domaine dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais te présenter donc, François Leborgne. Je crois que beaucoup d'expérience pour juriste, hein, barreau, membre du barreau, professeur chargé de cours à l'Université de Montréal, qui a fait justement sa thèse de doctorat sur ce thème. Donc, ça sera en quelque sorte, est-ce que je pourrais dire un résumé de la thèse?
Ça ne sera pas un résumé de la thèse, ça va être plutôt axé sur le cadre théorique, mais avec des applications sur le sujet de la thèse qui était l'état portuaire. Donc, ça sera vraiment, vous apprendrez plus sur le cadre théorique, mais avec, avec des illustrations de qu'est-ce que ça peut impliquer. Donc, vraiment, ça sera plus visuel pour vous.
Alors, bien, sans plus tarder, je te cède la parole et puis je te souhaite la bienvenue aussi pour
merci.
M'appeler ta petite audience.
bien, merci. Ça me fait plaisir de vous présenter le sujet, les réseaux transgouvernementaux et leur normativité basée sur la SOFT. L'exemple des mémorandums d'entente sur le contrôle par l'État portuaire, la sécurité des navires commerciaux. Alors, les présentations ont été faites. Sans plus tarder, je vais utiliser une métaphore physique avec vous. C'est peut-être ce qui est l'élément que vous allez retenir le plus de cette conférence. Et c'est ce qui est le plus important, d'ailleurs. Et tout le long de la conférence, vous pourrez faire appel à cette image que vous avez. Alors, admettons, j'utilise la métaphore de la main. Métaphore de la main pour exprimer le transgouvernementalisme. La main, imaginons que c'est un État, okay? Une illustration de l'État. C'est l'appareil juridique, législatif et exécutif. On voit qu'avec la main, on est capable de prendre des choses. Hein? La main peut représenter la souveraineté de l'État, son emprise sur des objets économiques, des secteurs économiques. Jusqu'ici, la main était capable de prendre donc des objets qui étaient d'ordre économique. La main peut représenter aussi, il y a ses doigts, et c'est la dextérité. L'exécutif, la bureaucratie, hein, l'administration publique qui est capable d'aller gérer des choses très, 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 très complexes et très, très fines. Le problème, c'est que maintenant, au niveau d'économie, ce n'est plus nécessairement des choses solides qu'on a. Maintenant, on a des choses plutôt fluides. Je parle de la mondialisation. Vous savez, la mondialisation avec les aspects de délocalisation des entreprises. Alors, cette main, maintenant, est obligée de gérer les choses fluides comme de l'eau. Imaginez que vous êtes obligé de verser de l'eau dans votre main. Vous n'êtes pas capable d'en prendre beaucoup, juste un tout petit peu. Hein? L'eau coule à côté, ça filtre entre les doigts. Cet État n'est donc plus capable de maîtriser aussi bien les secteurs économiques qu'il doit maîtriser, parce que, en raison du changement matériel de cette économie. Alors, la solution, vous l'avez tous fait, peut-être depuis l'âge de 2 ans, hein, pour recueillir de l'eau, comment vous faites? Vous mettez des mains ensemble, hein? Vous croisez vos doigts, vous faites un creuset, et hop, vous êtes capable d'en prendre beaucoup plus. Hein? Cette fluidité, elle est contenue dans votre main. Mais comment se fait ce jeu de contenance? C'est évidemment par les effets de pression entre vos paumes, hein, la mise en relation entre les éléments forts de l'État, mais aussi entre vos doigts. Ils sont entrecroisés. Ils créent un réseau. Ses doigts créent un réseau. Et donc, ils se parlent, les doigts, les uns les autres, pour exercer des pressions, pour essayer d'éviter les fuites à un endroit et à un autre. Et vous voyez donc le phénomène de réseau qui est propre au transgouvernementalisme. Hein? On en parlera, on parle aussi de réseaux transgouvernementaux. C'est comment les administrations publiques se communiquent entre elles pour essayer de contenir cette fluidité du commerce. Hein? Donc, je pense que cette métaphore est très parlante. Pour parler de transgouvernementalisme, bon, c'est quand même pas un sujet qui est si récent. Il y avait Robert Keohan et Joseph Nye qui en parlaient déjà dans les années 72 et 74, 1972-1974. Vous pouvez aussi aller voir du côté de Les Metcalf, 94. Mais c'est surtout Anne-Marie Slaughter qui a amené beaucoup d'eau, pour reprendre l'expression, au moulin. Et c'est basé essentiellement sur un cadre des sciences politiques. Pour ma part, j'essaie de transposer maintenant vers le droit. Évidemment, les réseaux transgouvernementaux ne se sont pas appelés comme ça immédiatement de cette façon. On utilise diverses formes de termes tels que regulatory globalization, regulatory convergence, multi-bureaucratic decision making, transnational legal process, government networks, transgovernmental regulatory networks, transgouvernementalism. Alors, on va essayer de donner un peu de chair à ce transgouvernementalisme, mais je vais partir de l'objet que j'ai étudié, à savoir le problème de la sécurité maritime. Or, je parlais de la mondialisation avec mon image de l'eau. Moi, ce que je m'étais intéressé, c'était le problème du manque de sécurité à bord des navires. Et en effet, on était parti de l'idée qu'il y avait, dans le droit international, le droit de la mer, les États du pavillon, ceux qui donc donnent l'immatriculation des navires, sont responsables de la sécurité à bord de ces navires commerciaux. Quand je parle de navires commerciaux, c'est cargo, paquebot, et non pas des navires militaires qui sont propres à la souveraineté de l'État. Donc, les États du pavillon, ceux qui donnent l'immatriculation, qui donnent une nationalité au navire, sont responsables de leur sécurité. Le problème, c'était que maintenant, il y a de plus en plus de libre immatriculation. À savoir que la jurisprudence internationale a tranquillement adhéré à l'idée que les États étaient souverains de qui pouvait enregistrer leur navire, et donc il pouvait y avoir une course des États du pavillon à aller chercher des flottes commerciales. On a vu arriver cette histoire de pavillons de complaisance qui sont issus d'une concurrence entre États pour aller chercher un maximum de navires parce qu'ils payent des taxes, des impôts, ces navires. Et il y a une intensification aussi de l'effet relatif des traités, à savoir que ces États qui ne sont pas intéressés à adhérer à certaines normes de sécurité vont voir les armateurs intéressés à venir dans leur... sur leur territoire pour enregistrer les navires, parce qu'ils n'ont pas de frais fiscaux, ils n'ont pas de frais sur la sécurité des navires, sur les taxes de travail à bord des navires pour les marins. Donc tout ça amène vers une course vers le fond, c'est ce qu'on appelle « race to the bottom », qu'on dit dans les écrits, et on arrive donc à ce phénomène de pavillon de complaisance, où finalement les traités sécuritaires, je vais vous les montrer rapidement, ne sont pas effectifs, ne sont pas mis en application. L'effectivité du droit en droit international n'est pas assurée en matière de sécurité maritime. D'autant plus que l'OMI est noyautée par les États du pavillon. L'OMI, c'est l'Organisation maritime internationale. C'est une des rares organisations où des pays en voie de développement ont réussi à noyauter l'organisation internationale. Donc, et qu'est-ce qui se passe donc dans cette situation où finalement les États ne peuvent plus assurer le contrôle? Il y a absence de sécurité sur les navires et la sécurité est évacuée du coût du transport. Vous savez, quand on fait cheminer des choses, on paye un coût, un fret. Eh bien, parce qu'il n'y a plus ces contraintes sécuritaires exercées par l'État, à ce moment-là, on peut réduire le coût de fret, et tranquillement, les prix du fret diminuent. Il n'y a plus assez de fret pour payer la sécurité à bord des navires. Et on s'est retrouvé dans une situation où on a eu des navires poubelles qui se sont fait naufrage durant toute une série d'années, durant deux décennies, là, de 1980-1990. Les exemples les plus marquants, c'était peut-être Erika et Prestige, hein, les deux cargos à mazout qui ont coulé au large du Finistère. Et ce n'est que des exemples, parce qu'il y en a vraiment beaucoup ailleurs à travers le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les États côtiers, les États portuaires, c'est le même État, mais qui a des pouvoirs, des prérogatives différentes selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Quand je parle de CNUDM, là, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ont voulu s'approprier des pouvoirs pour contrôler les navires qui circulaient au large de leur côte ou ceux qui font aussi escale dans leur port. Et donc, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est arrivée en 1982, a voulu répondre à ces besoins de l'État côtier portuaire en leur donnant une capacité de contrôle. Mais encore, fallait-il pouvoir exercer cette capacité de contrôle, parce qu'évidemment, les États se font concurrence aussi au niveau portuaire. Hein? Ils veulent aussi développer leurs installations portuaires, et s'ils font des contrôles trop stricts, mais à ce moment-là, les navires étrangers ne viendront pas dans leur port. Hein? Ils vont aller dans le port d'à côté, ils vont faire transférer la marchandise par le train, et puis finalement, l'industrie portuaire d'un État va décroître par rapport au profit d'un voisin. Ça, c'est pour l'objet. Maintenant, le cadre théorique, je veux simplement parler des nomenclatures du transgouvernementalisme. Celle qui est apportée par Anne Marie Slaughter en 2001 est vraiment la plus parlante, je trouve. Donc, je veux poser le cadre de comment s'inscrivent les mémorandums d'entente sur le contrôle par l'État portuaire. Je vais pouvoir l'inscrire à travers cette nomenclature. On parle de, pour combler l'ineffectivité du droit international, il y a différents moyens. Il y a d'abord les réseaux, surtout on va parler des réseaux gouvernementaux au sein des organisations internationales. Dans chacune des organisations internationales, que ce soit l'ONU, l'Organisation maritime internationale, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'OTAN, l'Union européenne, on va avoir tout un phénomène de réseautage dans ces organisations où les bureaucrates, les administrateurs des pays membres vont pouvoir se rencontrer et se parler afin de faire avancer des dossiers de coordination, notamment quant au contrôle ou à la régulation du marché. La deuxième forme, c'est les réseaux gouvernementaux au sein des structures issues d'ententes entre les pouvoirs exécutifs, mais pas nécessairement dans des organisations internationales, mais on peut être aussi dans des ententes exécutives d'ordre plus informel. Je pense que vous en avez une en tête, c'est le G8. Hein, le G8, c'est pas une organisation permanente qui fonctionne et élabore avec des comités en seule manière permanente, je ne me répète pas, mais qui fonctionne de manière plus sporadique, malgré qu'elles ont un secrétariat, on s'entend là-dessus. Troisième forme, les réseaux gouvernementaux spontanés, ce sont ceux qui sont essentiellement issus de la base, des administrateurs. Et il y a d'abord deux types, les organisations informelles de régulation transnationale. Je pense au comité de Bâle, qui est sur le contrôle des opérations bancaires, qui a été créé en 1974. On s'entend que c'est une organisation qui est informelle, qui est gérée essentiellement par des administrations publiques, auxquelles participent évidemment des membres de personnel exécutif. Ainsi qu'il y a une autre organisation qui est connue, c'est l'International Organization of Security Commissioners, qui est sur les contrôles de mouvements de capitaux à travers les États. C'est à peu près les deux modèles auxquels on se réfère quand on parle d'organisation informelle de régulation transnationale. Et il y a un deuxième modèle, les mémorandums d'entente, Memorandum of Understanding, qui sont ici étudiés. Alors, quand je parlais des États portuaires qui voulaient se protéger, ils ont eu la brillante idée, c'est surtout les Européens qui ont amené ça en 1982, d'abord, c'était, il y avait eu d'abord une première prémisse en 1978, on retiendra 1982, c'était des administrations, des autorités portuaires, autorités maritimes, des États européens qui ont voulu créer un mémorandum régional pour contrôler les navires. Alors, à la base, ils se sont dit, ben, si on coordonne nos efforts, on va être capable d'éviter que les navires aillent dans des ports voisins. Hein? Parce que les mêmes normes de contrôle vont être faites de toute façon chez le voisin. On s'entend avec lui pour exiger un certain, une coordination sur les mêmes quotas d'inspection, les mêmes normes d'inspection, les mêmes modèles d'inspection. Donc, les États européens se sont entendus là-dessus. Le modèle a été connu un certain succès. Et finalement, ce sont par la suite, à peu près 10 ans plus tard, les mémorandums de l'Amérique latine, de Viña del Mar, qui est arrivé ensuite, donc en rouge. Vous avez ensuite, en Asie, le mémorandum de Tokyo, qui est arrivé en 94. Mémorandum des Caraïbes en 96, Mémorandum de la Méditerranée en 97, en brun. Hein. Mémorandum de l'Océan Indien, on le voit du côté de l'Océan Indien, en 98. Mémorandum d'Abuja, ça c'est l'Afrique de l'Ouest, qui est arrivé en 99. La Mer Noire en 2000. Et le tout dernier, c'est dans le Golfe Persique, là, qui est dans, avec le côté vers Pomme. Et donc, c'est quand même une situation assez intéressante où le même modèle, avec des variantes régionales, a été appliqué à différents endroits, à des moments différents. Et c'était justement pour créer une espèce de monopole régional de contrôle. Hein? C'est l'idée de faire un monopole que, finalement, il n'y aura pas de mise en concurrence entre les États. Chacun applique les mêmes choses dans ses ports et donc on protège notre secteur portuaire. Évidemment, comment est-ce qu'on peut assurer la cohésion entre tout cela? Parce que le facteur concurrentiel sera toujours très fort et un bon incitatif à faire à être un free rider, à faire du resquillage. Mais finalement, il va y avoir des mécanismes de cohésion à l'intérieur qu'on va étudier. Alors, les enjeux de la présentation, on a présenté les éléments. C'était le premier enjeu, c'est au niveau théorique, c'est comment les réseaux transgouvernementaux s'inscrivent dans la dynamique de la mondialisation. Et le deuxième enjeu, qui est lui pratique, hein, comment les mémorandums d'entente sur le contrôle par l'État portuaire répondent aux problèmes de manque de sécurité à bord des navires. Bon. Dans une première partie, on regardera l'idée d'une contestation du droit public traditionnel. Dans la deuxième, les raisons d'un développement spontané. Hein, pourquoi c'est arrivé comme ça? Et le troisième point, les processus d'institutionnalisation, notamment par le jeu de la soft law. Première partie. Donc, comment c'est arrivé? La contestation, d'abord. Alors, il faut d'abord, c'est les idées de Johann Slaughter qui amène cette idée qu'il y a une fragmentation de l'ordre juridique. Il y a une complexification du droit. Hein? Auparavant, le droit n'était pas si complexe. Les textes normatifs qui relèvent du droit positif sont maintenant très nombreux, enchevêtrés, on s'en va dans tous les sens, et extrêmement techniques. Et j'ai là des exemples pour vous. Je les ai pris en droit international, mais on peut les prendre aussi en droit national. L'application se fait dans les deux sens. D'ailleurs, le droit national intègre les normes internationales par le processus de ratification. Hein? Voilà quelle belle liste de conventions internationales juste sur la sécurité maritime. Hein? La quantité qu'il peut y avoir. Évidemment, bon, sur, je dirais pas tout ça, hein? Mais c'est vraiment de la quantité. Hein? Et en plus, j'ai même pas eu assez de place pour mettre les 40 autres conventions sur le droit du travail au niveau maritime. Il y en a une quarantaine. D'accord? Alors, vous voyez la complexité. Au niveau de l'enchevêtrement, on a différentes normes en sécurité maritime. Hein? On a les normes sécuritaires issues du droit international public. On les a vues, là, avec toutes ces conventions. En plus, on a les résolutions, les politiques d'application. Hein, les résolutions de l'ONI et les politiques d'application de l'Organisation maritime internationale. Au niveau du droit national, l'État qui est responsable de la certification, donc l'État du pavillon, peut avoir ces normes qui dépassent celles des conventions internationales. Je pense à l'exemple des États-Unis, qui ont des normes supérieures avec le Oil Pollution Act, qui demande les doubles coques avec des normes beaucoup plus rigides que ce qui est exigé au niveau des normes internationales. Il peut y avoir des normes sécuritaires privées. Alors, il y a l'idée des sociétés de classification qui font la classification des navires. Sociétés de classification, c'est simplement des entités privées qui donnent des indications sur la qualité des navires à transporter des objets, de la marchandise ou des passagers. Et ce, à des fins privées. Hein. Donc, les sociétés de classification sont mandatées par l'armateur ou par l'assureur pour venir dire, est-ce que ce navire vraquier, ce pétrolier, est capable de transporter du pétrole correctement à tel endroit, à travers des eaux glacées, avec des icebergs et autres, ou transporter du vrac dans tel autre type de mer. Donc, tout un jeu de classification. Hein. On pourrait comparer ça à des normes ISO, si vous voulez. C'est un peu grossier comme comparaison, mais ça vous donne un peu l'idée. L'obligation, il y a aussi les obligations contractuelles relatives au transport de personnes et de marchandises, ainsi qu'à l'affrètement. Transport, c'est directement un contrat d'amener un objet à un autre endroit, l'affrètement étant la location d'un navire entre un fretteur et un affrèteur. Évidemment, il y a des règles qui s'appliquent quant au contrat. En matière de transport, on a les règles de la EBSB, les règles de Hambourg, les règles de Rotterdam, les nouvelles règles de Rotterdam. Pour le transport de, ça c'est pour le transport de marchandises, transport de personnes, il y a la Convention d'Athènes. Pour l'affrètement, il y a toutes les chartes parties qui sont élaborées par des associations d'armateurs qui exigent des normes du navire. Évidemment, dans ce type de contrat, on va demander que le navire soit en état de navigabilité, donc en état de fonctionner, flotter, avancer et transporter la marchandise. Alors, on a vraiment ces normes privées sont vraiment distinctes des conventions internationales. Mais il y a un effet de résonance entre les conventions internationales et les normes privées. Et évidemment, en dernier, il y a les processus d'autorégulation par des normes associatives. C'est souvent des codes associatifs. J'utilise des acronymes, là, mais l'ICC, c'est l'International Chamber of Commerce. L'IACS, c'est l'International Association of Classification Society. L'ICS, International Chamber of Shipping. ISF, International Shipping Federation. ITF, International Transport Workers Federation. Un syndicat. Hein? Faut pas oublier les syndicats. Toutes ces associations d'armateurs ou de syndicats, de sociétés de classification, vont mettre en place des codes pour dire nous devons faire le contrôle de telle manière ou de telle autre manière. Alors, vous voyez, l'enchevêtrement, il est là. Il n'est pas seulement on reste dans un bloc privé, dans un bloc public. Hein? Il y a une interdépendance entre toutes ces normes privées et publiques et qui viennent de différents auteurs qui ne sont pas nécessairement des États. Technique. Oh là, ça c'est technique. Ligne de charge, la Convention internationale sur les lignes de charge, je l'ai pris comme exemple pour vous dire comment c'est technique. Des belles règles avec des équations mathématiques, ça intéresse tellement les juristes, ce genre de choses. Ou encore, des schémas représentant les différents types de lignes de charge avec leurs normes extrêmement précises et autres. Quand je présente ça à mes étudiants, ils sont comme, vous voulez qu'on étudie ça? Jamais de la vie, c'est pas ça qui est important, mais ce qui est important, c'est pour des ingénieurs, c'est pas pour des juristes. Les juristes vont interroger des ingénieurs en cours si nécessaire, mais c'est des éléments extrêmement techniques et complexes.
Mais ça, juste pour être sûr que je comprenne, les lignes de charge, ce serait comme la palettisation dans les bateaux, c'est ça?
Ah, excusez-moi. Ligne de charge, c'est vrai. Ligne de charge, c'est simplement la mise d'une ligne sur la coque pour s'assurer du calibrage du navire. Parce que si vous mettez des conteneurs un peu trop à un endroit ou à un autre, et ça arrive souvent, le navire chavire.
Donc, comme un canot. Donc, combien tu en as, tu as des dispositions types qui te permettent d'avoir un équilibrage.
Okay. D'ailleurs, en fonction des différents types de transport qu'il peut y avoir, à savoir si c'est du fret liquide, du vrac ou des conteneurs, la marchandise ne réagit pas de la même façon au changement d'assiette d'un navire. Alors, vous voyez que c'est des éléments d'ingénierie, là, de calcul, de pivotement relativement au volume et au poids. La ligne de charge, cette ligne, quand vous irez au port, vous regarderez la ligne qui est vraiment sur la coque d'un navire et vous verrez qu'elle est, cette ligne, elle est très importante. C'est comme ça que ce qu'on appelle les aconeurs, là, ceux qui chargent les navires, ils se fient à cette ligne par rapport au niveau d'eau. Alors, vous voyez, des normes extrêmement techniques. Alors, évidemment, il va y avoir un processus qui est important là-dedans, c'est que quand c'est technique, on ne peut pas laisser ça à n'importe qui. On laisse ça à des spécialistes, à des administrateurs qui sont spécialisés dans le domaine. D'accord? Des ingénieurs, des architectes navals, des capitaines de long cours, quand on est dans les milieux maritimes. Mais si vous mettiez les normes techniques dans d'autres domaines de droit, les télécommunications ou autres, vous auriez le même phénomène, c'est que c'est l'administration publique doit avoir des savants, des experts, donc des ingénieurs, des gens qui connaissent bien cette technique et qui sont capables de comprendre les textes. Le problème, c'est que, évidemment, vous avez des textes avec un langage hyper spécialisé qui, finalement, le commun des mortels ne comprend rien. Même les juristes, à la limite, ont besoin d'aide à comprendre ces éléments-là. On est dans un droit qui devient assez protéiforme, assez instrumentaliste, à savoir, on amène une convention avec des normes techniques pour pallier à des problèmes qui arrivent sur le moment, une autre convention avec d'autres normes techniques qui pallient à un autre problème. Alors, vraiment, le droit devient mosaïque, hein? C'est ça la contestation du droit, c'est qu'on n'est plus capable d'avoir d'emprise sur ce droit-là. Ça, c'est la première étape. Hein? Il n'y a plus d'emprise. L'autre point, c'est évidemment la question de l'autonomie des autorités gouvernementales. Je reviens à l'idée que les experts sont les administrateurs sont des experts maintenant. Ce sont des experts au plan technique et scientifique. Quand je parlais des ingénieurs, ils sont capables de maîtriser ce droit. Alors, ils ont la capacité de traiter cette information, de le faire en leur sens, à leur avantage, on le verra plus tard. L'idée aussi du New Public Management, c'est cette idée dans les années 80, hein, avec Thatcher et autres, qu'il fallait rendre l'État beaucoup plus efficace. Hein, on avait misé beaucoup sur la gestion privée, la performance de la gestion privée, et comment est-ce qu'on pouvait transposer ça dans la gestion publique afin d'avoir une bonne efficacité de l'appareil public et aussi une bonne productivité, une réduction des coûts dans un contexte de crise budgétaire. C'est drôle, on en parle en ce moment, des problèmes budgétaires. Donc, comment la rendre efficace? Évidemment, c'est en leur donnant les moyens, une certaine autonomie à ces administrateurs d'appliquer des fonctions de gestion. Même chose pour au niveau de l'expertise, c'est un point que j'avais oublié, là, au niveau des fonctionnaires experts, c'est qu'on leur donne des capacités discrétionnaires à ces fonctionnaires d'appliquer les normes techniques. On ne peut pas laisser ça aux parlementaires, ils ne comprendront rien à ces normes techniques. Alors, on donne un pouvoir discrétionnaire par la loi à ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires experts. Autre chose qui est en faveur de l'autonomie des autorités gouvernementales, c'est l'idée de la dépolitisation des enjeux. Quand vous avez une question qui est difficile à trancher au niveau politique, qui est extrêmement technique, ben, vous la donnez aux administrateurs publics. Eux, ils sont savants. Ils vont pouvoir la trancher, cette question-là. Vous, comme politicien, vous en lavez les mains. Et ces savants sont d'autant plus la légitimité de le faire qu'ils ont la connaissance pour gérer ce genre de problème-là. Alors, quand on parle de dépolitisation d'enjeux, évidemment, c'est des enjeux sur toutes sortes de normes qui sont associées au commerce international et du transport est là, si vous voulez faire venir. Les limitations de la portée de l'ordre juridique international aussi. Ça, c'est un autre aspect c'est le deuxième grand aspect de la contestation du droit du droit public, c'est l'idée que, bon, on est toujours sur une idée de souveraineté, un peu à l'idée de souveraineté westphalienne. Hein. Mais finalement, avec la mondialisation, on est dans une situation d'interdépendance. Ce type de souveraineté n'est plus applicable, elle est démodée. Mais, d'autant plus que le droit international, tout le contexte du droit international depuis la Seconde Guerre mondiale est axé sur la coopération, la mise en place d'organisations internationales. Hein? Cette idée que les États doivent communiquer entre eux, élaborer ensemble des normes. Autre point, l'usage des traités internationaux remis en cause. L'idée que quand on veut signer un traité, on va y aller par le plus petit dénominateur commun. Il faut aller chercher une masse d'États suffisante pour que le traité soit mis en vigueur. D'accord? Alors, comment vous allez ramasser les... Vous allez pouvoir réunir les derniers États qui ont des réticences à aller signer, à aller donner une part de leur souveraineté dans une convention? Bien, vous allez réduire les enjeux de cette convention-là. Hein? Donc, les objectifs de la convention sont d'autant plus réduits pour aller chercher les derniers États nécessaires à la ratification ou encore à l'établissement d'un consensus. Autre point, sous-catégorie, c'est aussi la complexité et le coût de formation et de modification du droit international. Juste une norme maritime internationale, ça prend à peu près 32 000 pages par État. Ça, ces chiffres-là viennent de Philippe Boisson, qui est un avocat au Bureau Veritas de Paris, mais qui est en forte relation avec l'Organisation maritime internationale. Donc, normalement, en moyenne, pour chaque État, un changement de norme, 32 000 pages. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Okay? Autre aspect, limitation des activités des organisations internationales. C'est bien beau avoir des organisations internationales, mais celles-ci sont souvent des organisations bureaucratiques. Qui dit bureaucratie, dit souvent problème d'inertie. Il faut que la machine suive. Il faut que toutes les politiques soient bien coordonnées. Il faut que les éléments soient bien appareillés les uns aux autres. Or, l'autre statistique de Philippe Boisson, à l'OMI, on produit environ, l'Organisation maritime internationale, on produit 15 millions de pages par an. Ça vous donne un peu l'idée de comment ce type d'organisation, très grosse, exige de l'énergie. Les orientations politiques traditionnelles aussi. Une organisation, quand elle a été mise en place, elle a une orientation politique qu'on a voulu au début. L'Organisation maritime internationale, on a voulu que ça soit simplement une organisation qui élabore des normes, mais pas qui en fasse la police. Pas d'intervenir sur les océans pour policer les navires. C'est les États du pavillon qui sont supposés le faire, pas l'Organisation maritime internationale. Je vais le mettre en contraste avec l'Organisation de l'aviation civile internationale qui, elle, a un mandat depuis le début d'être non seulement d'élaborer des normes, mais en plus de faire des contrôles sur les aéroports, sur la sécurité à bord des avions. Alors, dès le début, on a voulu donner des mandats. Et quand on voit un problème de manque de sécurité au sein de l'OMI, l'OMI est prise avec son orientation traditionnelle. Bien, moi, je fais juste des normes. Je ne peux pas aller intervenir pour aller faire la police sur les cargos en mer. D'accord? Les raisons d'un développement spontané des réseaux transgouvernementaux. Alors, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive finalement à créer des mémorandums comme j'ai pu vous les présenter sur la carte. D'abord, il y a cette idée de communauté épistémique, hein, de fonctionnaires, cadres, experts. Je vous en ai parlé. Dans les organisations nationales, admettons qu'ici on est au Bureau de la sécurité maritime, nous avons des ingénieurs, des architectes et des capitaines long cours qui sont habiles à informer d'une part les autorités politiques, hein, le sous-ministre, le ministre, les élus, et qui sont aussi habiles à, et vous le voyez en dessous, traiter avec les fonctionnaires chargés de l'application des directives auprès des régulés, donc auprès des auprès des personnes qui travaillent dans les ports ou auprès des armateurs. Donc, sont en contact avec cette courroie de transmission avec les personnes qui sont visées par la régulation. Alors, ils sont vraiment au centre du processus d'information. Hein? Ils reçoivent des informations de la base, peuvent les remonter jusqu'en haut, et ils reçoivent des directives, et ils le redescendent vers le bas pour la mise en application. Mais aussi, avec la démocratisation du transport, ces personnes de la direction, expertes, sont appelées à participer à des conférences internationales au sein de l'OMI, ça peut être des organismes internationaux comme à gauche, vont aller aux différents forums et vont échanger sur leurs problèmes. Ah, moi j'ai un problème, j'ai toujours des navires sous normes qui arrivent dans mon port, est-ce que tu as ce même type de problème? Ah oui, moi aussi j'ai ce type de problème-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait exercer ce contrôle? Donc, dans les cadres des organisations, où ils peuvent rencontrer aussi leurs homologues dans leur État. À savoir, ils vont directement voir ses membres lors d'une visite de courtoisie, visitent les bureaux, finalement discutent, vont prendre un café, vont aller prendre même peut-être une bière après. Donc, voilà. C'était pour vous dire, c'était simplement pour vous dire que c'est ce personnel fonctionnaire cadre expert est vraiment au centre du processus d'information. C'est eux qui contrôlent le tout. La mise en contact des fonctionnaires, j'en ai un peu parlé tantôt, là, à travers des forums comme l'OMI ou l'Agence européenne de sécurité maritime, c'est de là qu'est parti évidemment le mémorandum de Paris, le mémorandum européen. Aussi, on a beaucoup poussé en Europe sur la comitologie, qui est ce processus de mettre les fonctionnaires cadres en contact, de créer des comités d'analyse où ils se mettent en contact, se rencontrent de manière régulière pour essayer de trouver des solutions et échangent des courriels, échangent des coups de téléphone. Ces éléments-là créent une certaine permanence dans leur contact. L'homogénéité des interlocuteurs est aussi un autre élément de mise en contact. Quand on a la langue commune, en maritime, c'est l'anglais. On fonctionne tous en anglais. Dans tous les pays du monde, tous les ingénieurs, tous les architectes, tous les capitaines de long cours parlent tous anglais. Alors, ils sont capables de communiquer très facilement ensemble à travers ces forums ou à travers ces échanges. En plus, quand on a une culture à peu près similaire, ça va d'autant mieux. Et si on est de la même région, on participe souvent à des comités ensemble, ça renforce davantage. Alors, c'est vraiment cette idée d'homogénéité. On est capable de créer un corps. Et c'est ça l'idée. Quand je parle de communauté épistémique, entre des fonctionnaires cadres experts, c'est la mise en place d'un corps unitaire qui parle le même langage spécialisé, la même idée, la même formation. Ils sont tous à peu près de la même école. C'est un des éléments d'étincelle. L'autre élément, c'est d'étincelle, la mise en place des réseaux, c'est le développement des réseaux en fonction de l'analyse économique du droit. Ces fonctionnaires experts ont des contraintes de gestion. Parce qu'ils sont chefs de plusieurs bureaux, ils doivent conjuguer non seulement avec ce que disent leurs partenaires, mais aussi avec leurs contraintes nationales. C'est l'idée du public choice, d'abord. Le public choice, c'est cette idée que les fonctionnaires, les administrateurs agissent pour justifier leur place dans une administration. Ils vont prendre des décisions toujours en allant dans le sens de justifier leur travail, de s'assurer leur place et même d'accroître leur potentiel de pouvoir. D'accord? Donc, ces administrateurs vont chercher à renforcer leur capacité d'action, leur positionnement. Et ils sont pris avec un autre phénomène qui est celui de l'autorégulation du marché, à savoir que des armateurs ou des sociétés de classification pourraient vouloir autoréguler le marché, donc s'approprier les contrôles. Là, à ce moment-là, ces experts fonctionnaires seraient mis de côté, ils n'auraient plus la capacité de contrôle des navires. Ou encore, il pourrait y avoir des organisations internationales comme l'OMI qui décideraient de changer son orientation traditionnelle de seulement faire des normes et de se créer des pouvoirs de police. ce moment-là, ces fonctionnaires experts nationaux de l'autorité maritime perdraient un peu de leur capacité d'action sur le contrôle des navires qui carrient l'ordre international. Donc, c'est cette idée de public choice. Ils ont voulu mettre en commun leur capacité d'intervention pour bien s'assurer que cette intervention-là n'aille pas du côté privé, autorégulation, ou du côté supranational, les organisations internationales. Cette idée de mise en organisation aussi de mémorandum, c'est la possibilité de faire des économies d'échelle. Hein? Lorsqu'on coordonne nos contrôles, on est capable de limiter les ressources nécessaires. Chacun apporte ses ressources à lui. On a moins de navires à contrôler parce que le premier navire, il y a un navire qui est arrivé dans un port voisin. L'État n'a pas nécessairement, dans le deuxième port, l'État n'a pas nécessairement à contrôler une seconde fois ce navire-là. Il a été déjà contrôlé par un partenaire dans un format de contrôle uniformisé. On va aussi créer une espèce de banque, de base de données où les contrôles des navires seront intégrés. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir partager l'information en information commune. Ça crée une économie au niveau des ressources. Hein? On a beaucoup moins de navires à contrôler. Pour contrôler peut-être 90% des navires qui rentrent en Europe, sur le continent européen, chaque administration a peut-être à contrôler 25% des navires. Grosso modo, ça c'était au début, c'était dans une version optimale, mais on pourrait en contrôler peut-être 15%, on arriverait quand même aux 80% de navires contrôlés dans la région. Donc, ça évite aussi d'embaucher beaucoup de monde. L'effet d'entraînement d'un réseau, quand on crée une base de données, hein, on apporte nos informations. L'autre, avec qui on s'est concerté, apporte lui aussi une autre information. Et un autre apporte l'information. Ce qui crée un pôle d'information assez intéressant pour que, finalement, les autres veuillent venir pour avoir accès à cette information-là. Donc, il y a un effet d'entraînement. C'est que ça atteint une telle masse critique que, finalement, les autres veulent venir et veulent aussi adhérer au réseau pour participer à la base de données. C'est un peu comme l'effet d'une bibliothèque. Cela dit, c'est bien, on a vu l'étincelle, on a vu la logique qu'il y avait derrière, cette prémisse intellectuelle à partager les choses. Maintenant, encore faut-il la concrétiser. C'est le processus d'institutionnalisation des réseaux transgouvernementaux, comme les mémorandums. Alors, pour créer un mémorandum, hein, une espèce de réseau, il faut d'abord qu'on crée un document. Hein. Faut qu'on dise qu'on est un réseau. Hein. Dans les infrastructures organisationnelles, on va dire qu'on est une organisation. Alors, d'abord, il y a cette idée d'autoproclamation. Les administrateurs, entre eux, se concertent, comme on a pu le voir par les communautés épistémiques, qui par le partage de leurs préoccupations de gestion. On va créer un réseau, on va créer un mémorandum. Mais c'est qui le signe? Hein? Est-ce que c'est le ministre? C'est possible. Les mémorandums de Paris ont été signés par les ministres. Mais ils peuvent aussi être signés par les chefs d'administration publique, par les membres de la direction de l'autorité publique. J'ai un exemple, on le montrera tantôt, où c'est eux qui signent. Et finalement, parce que un mémorandum, ce n'est pas un instrument formel, c'est un instrument qui est d'ordre informel, non contraignant, qui est d'ordre soft law. On n'a pas besoin de la ratification d'un État là-dessus. On a juste besoin d'une signature, d'une mise en coordination par la signature des chefs d'administration publics. Quand je parle de chef, ce n'est pas le ministre, c'est les directeurs. Aussi, on va faire une infrastructure organisationnelle qui va permettre d'être encadrée par la loi nationale. Hein. On va créer un document qui va permettre à chacune des autorités gouvernementales d'agir dans le cadre de sa loi. La loi de chacune des nations va dire, bon, ben, je donne l'autorité maritime est compétente pour faire ceci, cela, 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 agit avec discrétion sur tel élément. Eh bien, on va pouvoir dire dans l'infrastructure organisationnelle, vous avez la possibilité de ne pas appliquer telle disposition du mémorandum parce que votre loi ne vous le permet pas. Alors, un jeu de flexibilité, OK? Une espèce d'effet relatif interne. Quelles normes aussi est-ce qu'on va appliquer quand on fait des contrôles ou quand on se coordonne sur faire des contrôles? Est-ce qu'on va appliquer des normes plus élevées de chacune des nations? Non, on ne peut pas, parce qu'une nation met en vigueur des normes beaucoup plus élevées, d'autres plus basses, mais il y a un point quand même qui est minimal habituellement à travers les nations, c'est les normes minimales internationales. Okay? On peut s'entendre habituellement sur l'application des normes minimales internationales parce qu'elles sont partagées, elles font consensus au sein de la communauté internationale. Alors, c'est elles qu'on va dire dans le mémorandum d'entente, on va les citer. Mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État portuaire en Europe va appliquer telle convention, telle autre convention, telle autre convention, telle convention. Et c'est toute une liste de conventions. Mais elles n'appliqueront pas des normes nationales supérieures. Mais elles vont permettre aux autorités, par contre, d'appliquer les autorités d'un État qui a des normes supérieures vont leur permettre, si vous le souhaitez, d'appliquer la norme supérieure. C'est l'idée de l'effet relatif interne. On va créer aussi des comités qui vont jouer le rôle d'organes exécutifs. On va penser à, finalement, créer une certaine permanence par des comités. Hein? On va avoir des schémas, un schéma, celui du mémorandum de Paris, celui d'Europe. Comment est-ce qu'il y a certains comités qui assurent une permanence? Autre élément de permanence, c'est un secrétaire général qui va suivre les éléments du réseau. Okay. Donc, il est nommé pour un mandat de 4-5 ans. Les infrastructures matérielles, on va créer un secrétariat. Hein, au mémorandum de Paris, il est installé aux Pays-Bas, il est à Amsterdam, ou Rotterdam plutôt. Et donc, on va créer un siège social où ils vont recevoir les différents documents, vont pouvoir gérer les différents éléments, les différentes propositions. Et évidemment, avec ce secrétariat, il y a le secrétaire général et il y a ses adjoints. Ils sont à peu près 5-6 pour le mémorandum d'Europe. Mais pour les autres mémorandums, comme ceux de les plus petits, comme ceux de l'océan Indien ou des Caraïbes, eh bien, c'est un simple petit local avec un ordinateur, une base de données, un secrétaire et c'est tout. Donc, c'est vraiment, c'est en fonction des moyens régionaux qui sont disponibles. Il y a aussi possibilité d'un centre d'information. Tous les mémorandums d'entente sur le contrôle par l'État portuaire des navires vont créer un centre d'information, d'hébergement d'un système de base de données. C'est souvent un ordinateur, simplement, qui collecte les informations des différentes autorités. Dans le cas du mémorandum de Tokyo et d'Europe, ce sont de très grosses bases de données importantes. Là, il y a des sites matériel où on contient des serveurs protégés du feu et du vol et autres, donc tel qu'on peut le concevoir dans les bases de données informatiques universitaires et autres. On va aussi créer un site Internet. Vous pourriez chercher les différents mémorandums d'entente sur Internet. Ils vont avoir leur site et vous pouvez interagir avec eux. Là, je voulais donner un exemple d'autoproclamation. C'est ce qu'on appelle le mémorandum d'entente sur la mise en œuvre du système informatique EQUASIS. EQUASIS est un système informatique qui réunit plusieurs mémorandums d'entente sur le contrôle par l'État portuaire. Il est réuni ensemble pour partager l'information que les bases de données, les 2-3 bases de données qui les composent, puissent collecter, partager l'information ensemble. C'est le seul exemple que j'ai pu trouver où on voit vraiment la signature des fonctionnaires cadres, des autorités responsables. Hein. Ils ont vraiment signé ça. C'est pas la signature des ministres, c'est la signature simplement des fonctionnaires cadres spécialisés dans les autorités maritimes. Type de structure, un autre exemple, type structure organisationnelle, je ne veux pas faire l'analyse, mais c'est pour vous dire que vraiment on va créer, vous voyez au centre, là, Port State Control Committee, c'est vraiment le centre exécutif. Une fois par année, ils se réunissent, tous les membres se réunissent, les chefs d'autorité maritime se réunissent pour voir comment fonctionne le réseau. Est-ce qu'il y a des adaptations à faire? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Ils vont les adopter dans ce cadre-là. Ils vont aussi avoir des comités pour des analyses préalables, notamment le Technical Working Group qui est sur le côté droit. On va avoir ce qu'on voit le CIRENAC, là, c'est le système de base de données qui est en lien donc avec le secrétariat général du réseau. Alors c'est vraiment quelque chose de concret là. C'est des liens entre différentes entités. Maintenant, comment ça tient tout ça? Parce qu'on est dans des instruments informels, des instruments non contraignants. Hein? Si on était dans des instruments contraignants, on pourrait appliquer la Convention de Vienne, hein, sur les traités, et là, donner des sanctions aux États qui ne respectent pas leurs obligations. Mais ici, on est dans du non-contraignant. C'est pas, vous l'avez vu, c'est des signatures de cadre supérieur. Centre de droit international, ça n'a pas une énorme valeur, hein, au sens de la contraignabilité. Donc, il faut aller chercher des éléments autres que ce qui est du juridique pur. Et on s'en va vers la soft law. Et c'est l'usage, donc, de la soft law comme source d'effectivité. Et entre autres, l'usage de la persuasion. En fait, c'est une traduction que je fais de soft power, qui est l'instrument de renforcement de la soft law. D'abord, l'information, c'est l'outil privilégié de la persuasion. Si on veut réussir à vous persuader de quelque chose, c'est en vous transmettant des informations qu'on va réussir. L'information, donc, est au centre de ce soft power. Et c'est l'idée, d'abord, que la sanction ne sera pas en termes de droit, mais en termes de niveau de la réputation que vous avez. Tous les participants, qu'ils soient institutionnels ou même individuels, à titre d'individu, tous veulent garder une bonne réputation. Okay? Il y a cette idée que si vous ne participez pas ou si vous allez à l'encontre du réseau, ben, on va savoir qu'à un moment donné, on ne peut pas vous faire confiance. Vous allez être mis en marge du réseau. Et les fonctionnaires qui traitent entre eux, hein, de différents dossiers ne parlent pas nécessairement juste du réseau. Il peut y avoir d'autres conventions qui rentrent en ligne de compte. Et là, à ce moment-là, c'est que si on vous met en marge d'un réseau, ça va avoir aussi des implications sur les négociations que vous entretenez relativement aux autres traités. Hein? Vous négociez sur un traité, je ne sais pas moi, en droit aérien, alors que c'est les mêmes fonctionnaires en droit maritime. Alors à ce moment-là, peut-être que au niveau du traité aérien, ces individus qui n'ont pas respecté les règles du réseau vont être marginalisés sur d'autres enjeux extérieurs. C'est aussi les États, ben c'est les individus et c'est les États. Les États, on sait que tel État, habituellement, il ne respecte pas sa parole, ne respecte pas l'instrument, on le marginalise. Mais ça peut être aussi les individus. Lui, monsieur un tel, madame un tel, on sait qu'elle est toujours en train de négocier de cette façon-là, puis finalement, fait du resquillage. On ne négocie pas avec elle. C'est terminé. Et donc, un peu comme à l'image d'eBay, hein, où vous avez le feedback dans eBay, hein, vous n'avez pas de contraintes. Vous pouvez être vendeur puis dire ah oui, j'ai reçu l'argent, mais je n'envoie pas le matériel. Et finalement, tout le monde vous envoie des mauvais feedbacks, hein, des mauvaises rétroactions, puis finalement, vous êtes marginalisé du réseau eBay parce que personne ne veut faire affaire avec vous. Eh bien, c'est un peu la même chose, c'est que tout le monde veut protéger sa réputation. OK? On n'est pas dans du droit. Hein, c'est la même chose, c'est qu'il y a eBay. eBay, on ne pourra pas poursuivre la personne qui est à l'étranger. C'est trop compliqué. Pour 25 $, on ne va pas aller, la poursuivre. Ça ne sert à rien. Mais on va lui donner une mauvaise réputation. Même chose ici. On ne peut pas poursuivre ces États ou ces individus, mais on va leur donner une mauvaise réputation. Je glisse tout de suite l'idée que comment est-ce que les réseaux vont avoir une incidence sur les régulés, donc sur les armateurs. Là aussi, les armateurs vont protéger leur réputation. Quand ils se font contrôler par les réseaux, les mémorandums sur le contrôle par l'État portuaire, les contrôleurs de l'État portuaire montent à bord des navires, viennent inspecter les navires, est-ce que vous respectez bien telle convention? Et hop, infraction là. Problème relativement aux normes du travail. Et là, tout ça est mis sur la base de données du réseau qui est partagé et qui est même publicisé à travers le site Internet. Alors, les armateurs vont vouloir préserver leur bonne réputation parce que si sur Internet il est dit que leur navire est en état de non-navigabilité, plus personne ne va vouloir transporter des choses sur leur navire. Ils vont perdre des parts de marché. Hein? C'est ce qu'on appelle souvent l'histoire des listes noires ou des listes de bannissement. C'est qu'on publicise ces infractions. Et donc, pour les armateurs, il y a un certain respect. Hein? On fait très attention par rapport au réseau, au mémorandum de contrôle par l'État portuaire, parce qu'on ne veut pas se faire piéger, sinon on va perdre des parts de marché et on ne sera plus rentable. Donc, c'était l'idée de la réputation qui était importante, qui était vraiment la base du réseau, tant sa cohésion interne que son effectivité externe. Il y a aussi la rationalité de la théorie des jeux. C'est cette idée, je ne sais pas si vous avez déjà analysé ce genre de théorie, mais en situation où vous êtes en coopération avec quelqu'un, mais une situation un peu d'aveuglement, hein? La théorie des jeux va dire que la probabilité est plus forte que vous cherchiez à coopérer plutôt qu'à aller faire un resquillage. Parce que le coût du resquillage sur plusieurs emprises va être plus grand que le coût d'une coopération. Les gains, on pourrait le renverser dans un autre sens. Les gains vont être à long terme plus grands que les gains immédiats si vous faites du resquillage. Autre élément, la valorisation de la transparence. Plus vous donnez d'informations à vos partenaires, plus ceux-ci sont rassurés, plus ceux-ci aussi veulent donner de l'information sur leurs agissements, plus il va y avoir une cohésion interne. Et on va chercher à collaborer davantage, toujours un peu par cette idée de théorie des jeux. Aussi, une persuasion accrue par la proximité régionale, c'est cette idée que comme on travaille souvent sur plusieurs dossiers au niveau régional, on cherche cette cohésion parce qu'on partage toujours des moments sur différents dossiers et on est toujours appelé à discuter du dossier puis de discuter des éléments qui sont à côté, donc sur un autre sujet, on va pouvoir en discuter. Donc, l'intensité de la communication et sur le bien fondé du réseau, sur sa santé du réseau, va jouer aussi beaucoup au niveau régional. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve des mémorandums d'entente sur le contrôle par l'État portuaire à des niveaux régionaux. Beaucoup plus aisé de fonctionner ces réseaux, comme vous l'avez vu sur la carte, à travers différentes régions, pour des questions non seulement régionales, mais aussi linguistiques, culturelles et autres. Exemple. Un exemple de liste de bannissement du Paris MOU, là, le MOU européen. Ben, vous avez le numéro de coque de l'OMI. Ça, chaque navire a un numéro de coque. Vous avez son nom, vous avez son l'état du pavillon, donc son pavillon, sa nationalité, pardon. Vous avez la compagnie qui est armateur, vous avez la date où il a été banni du secteur, hein, il était tellement pourri qu'on a décidé qu'il ne pouvait plus venir en Europe. On a dit aussi on mentionne quelle autorité a décidé de son bannissement. Bref, toutes sortes d'informations qui permettent de vraiment rendre le secteur maritime très, très transparent alors que c'était obscur. L'information ne circulait pas.
Ça fait déjà une heure.
Ça fait déjà une heure?
Oui.
Mon Dieu, je vais très vite. Je ne savais pas que j'irais aussi vite. Si longtemps. La SOFLA permet d'atteindre des objectifs supérieurs de coordination. Alors, juste une idée, instrument qui permet d'amender rapidement et aisément un réseau. Comme il n'y a pas de ratification, on peut amender très, très rapidement. Depuis 82, à peu près une trentaine d'amendements. On évite aussi le plus petit dénominateur commun, à savoir qu'on on peut aller plus loin. Comme c'est des instruments qui ne sont pas contraignants, on peut amener des normes beaucoup plus importantes. On peut aussi éprouver des méthodes incertaines. On n'est pas sûr de telle application. On peut le tester. Si ça ne marche pas, on l'enlèvera. On n'est pas pris par une signature, une ratification. Ou coopérer avec des États indésirables. Le meilleur exemple, c'est le mémorandum de Méditerranée, où il y a une coopération entre Israël, la Syrie, l'autorité palestinienne. Habituellement, ils ne sont pas très, très avenants à signer des conventions régionales impliquant Israël, hein, surtout les États arabes. Mais parce que ce sont des ententes non contraignantes, ça n'implique pas de choses en termes de droit. Donc, conclusion, les réseaux transgouvernementaux s'inscrivent dans une frontière élargie entre le droit international et les relations internationales. On ne peut pas, comme ce sont des ententes normatives qui ont des aspects persuasifs, on ne peut pas dire qu'on est dans une frontière avec une ligne, mais une frontière plutôt élargie, avec un spectre entre le droit international et les relations internationales. On peut aussi dire que c'est un régime qui est alternatif, un peu comme Unidroit et la Lex Mercatoria. Hein? On fait appel aux droits des acteurs. On change les paradigmes de la souveraineté. On ne sommes plus dans une souveraineté autonomie. On est plutôt dans une souveraineté relationnelle participative. Et les mémorandums sont aussi l'image d'un catalyseur du droit, à savoir que le droit qui n'était pas appliqué à cause de l'effet relatif des traités pavillons de complaisance, maintenant peut l'être grâce à des contrôles. Et ce n'est pas du droit en soi, mais plutôt un catalyseur du droit. Un peu à cette image de la chimie où on a deux produits, on les mélange, il y a une réaction. Mais des fois, pour accroître la capacité d'interaction entre les produits, il faut un catalyseur. Et les mémorandums d'entente, le transgouvernementalisme, usent de ce pouvoir catalytique. Je termine bientôt là-dessus. Mais les réseaux transgouvernementaux peuvent constituer une entrave au respect des principes démocratiques. Un dépouillement des enjeux politiques, manque d'imputabilité, manque d'accessibilité. Pourquoi? Parce que les parlementaires n'ont plus accès à ces réseaux. Ils sont dans leur parlement, les réseaux agissent de manière autonome et on ne peut plus inviter des membres du réseau, européens, venir témoigner devant des commissions parlementaires canadiennes. On ne peut pas les amener, c'est difficile. Aussi, la transparence est un enjeu difficile, à savoir que quand vous êtes en sécurité nationale, comme le contre-espionnage, si vous créez des réseaux entre des administrations publiques, vous ne pourrez pas vérifier les informations et assurer que les droits sont vraiment protégés. Je prends l'exemple du réseau Echelon, qui est signé entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, où on fait de l'écoute électronique. Chaque partenaire va venir dire « Je ne peux pas écouter les conversations qu'il y a sur mon territoire par rapport à des citoyens de mon territoire, mais toi, partenaire, peux-tu écouter les conversations qui se passent sur mon territoire? » Et là, à ce moment-là, transmets-moi de l'information. Alors, comment pouvez-vous essayer de combattre ce problème d'accès à l'information, ce problème de preuve, alors que l'information est à l'extérieur, traitée par une autre autorité, mais en coordination avec votre autorité nationale. Je finis là-dessus. Les réseaux transgouvernementaux, se déconstitue maintenant de véritables systèmes normatifs qui tâchent de suivre la dynamique de la mondialisation, ne doivent plus être ignorés par le droit. Voilà, il va falloir déterminer les nouveaux enjeux.